4. Il n'avait pas parcouru 300 mètres quand Eddie aperçut des reflets bleus à travers les arbres. Les aiguilles de pin qui jonchaient le sentier le rendaient glissant, et lorsqu'ils atteignirent la dernière descente, celle débouchant sur un lac long et étroit d'une beauté éblouissante, Eddie remarqua que quelqu'un avait bâti une rambarde en bouleau. Au-delà, ils virent un court appontement s'avançant dans l'eau. Un bateau à moteur était amarré au quai.
« Il est à moi, » fit John. « J'étais venu ici faire mes courses et déjeuner sur le pouce. Je m'attendais pas à un tel cirque. »«
Eh ben, vous l'avez eu quand même, »
commenta Eddie. « Pour sûr, voilà qui est bien dit. Attention à ce coin-là, si vous ne voulez pas vous retrouver sur le derrière. »
John dévala prestement la dernière portion du chemin, s'accrochant à la rambarde pour ne pas perdre l'équilibre, glissant plus qu'il ne marchait. Il portait une paire de vieux godillots éraflés qui auraient tout à fait eu leur place dans l'entre-deux-monde, pensa Eddie. Il fut le suivant à passer, prenant garde à sa jambe abîmée. Roland ferma la marche. De derrière eux retentit une violente explosion, aussi fracassante et fluide que les premiers tirs, mais beaucoup plus puissante.
« Ça doit être le propane de Chip, » fit John.
« J'implore votre pardon ?»
demanda Roland.
« Du gaz !» répéta Eddie calmement.
« Il veut dire du gaz !»« Pour sûr, du gaz pour la cuisinière !» acquiesça John.
Il monta dans le bateau, s'empara du câble du démarreur de Levinrud et tira dessus avec force. Le moteur, un vigoureux petit 20 chevaux qui rappelait une machine à coudre, démarra au quart de tour.
« Montez là-dedans, les gars, qu'on vide les lieux » grogna-t-il.
Eddie grimpa à bord. Roland fit une pause, le temps de se tapoter 3 fois la gorge. Eddie l'avait déjà vu accomplir ce rituel avant de traverser un cours d'eau. Il se promit de demander des détails à Roland. Il ne devait plus jamais en avoir l'occasion. Avant que la question se présente de nouveau, la mort se serait glissée entre eux. 5. L'embarcation avançait aussi silencieusement et aussi gracieusement sur l'eau que le pouvait un engin à moteur, glissant sur son propre reflet sous un ciel d'été bleu cobalt. Derrière eux, le panache de fumée noire souillait ce bleu, s'élevant de plus en plus haut, gagnant toujours plus sur le ciel. Des dizaines de curieux, pour la plupart en short ou en maillot de bain, se tenaient sur les berges de ce petit lac, tournaient vers la colonne de fumée, les mains en visière pour se protéger du soleil. Peu d'entre eux remarquèrent le passage discret et feutré du bateau à moteur. Peut-être même aucun.
« C'est l'étang de Kewadin, au cas où vous vous demanderiez, » leur précisa John.
Il tendit la main devant lui, où venait d'apparaître un autre appontement. Au bout se profilait un petit hangar à bateau, blanc, avec des finitions vertes, dont la porte coulissante était ouverte. À mesure qu'ils approchaient, Eddie et Roland purent distinguer un canoë et un kayak attachés à l'intérieur.
« Ce hangar à bateau, il est à moi aussi, » ajouta l'homme en chemise de flanelle.
Sa diction, surtout sur bateau, était impossible à imiter. Quelque chose comme « beuteux ». Mais les deux hommes reconnurent bien les intonations. C'était celle de la Kala.
« Il a l'air bien entretenu, »
fit remarquer Eddie, essentiellement pour dire quelque chose.
« Oh, pour sûr, je fais un peu d'entretien, un peu de menuiserie aussi. Ça ferait pas sérieux pour les affaires si mon propre hangar tombait en ruine, pas vrai ?»
Eddie sourit.
« Sûrement pas, non ?»«
J'habite à environ 500 mètres du rivage. Je m'appelle John Callum. »
Il tendit sa main droite à Roland, tout en continuant de guider le bateau de l'autre, loin du panache de fumée et en direction du hangar à bateau. Roland prit la main, qui était agréablement rêche.
« Je suis Roland des Chênes, de Gilead. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, John.
À son tour, Eddie tendit la main.
« Eddie Dean de Brooklyn, enchanté !»
John lui serra volontiers la main, mais l'observa d'un œil attentif. Quand leurs mains se séparèrent, il dit
« Jeune homme, est-ce qu'il vient de se passer quelque chose ? Oui, n'est-ce pas ?»«
Je ne sais pas, »
répondit-il. « Pas complètement honnêtement. »«
Pas mis les pieds à Brooklyn depuis un bail, pas vrai, fiston ?»«
Je ne suis pas allé à Morehouse, ni dans aucune maison, »
fit Eddie Dean. Et avant que ça lui échappe de nouveau,
« Mia a enfermé Susanna. Elle l'a enfermée en 1999. Suze peut bien se rendre au Dogan, mais ça ne sert à rien. Et Mia a verrouillé les commandes. Suze ne peut rien y faire. Elle s'est fait enlever. Elle... »
Il s'interrompit. L'espace d'un instant, tout lui avait paru tellement clair, comme un rêve une seconde avant le réveil. Et puis, comme il se produit fréquemment avec les rêves, il s'était évanoui. Il ne savait même plus s'il s'était agi d'un vrai message de Susanna ou d'un pur fantasme.
« Jeune homme, est-ce qu'il vient de se passer quelque chose ?»
Ainsi qu'Alam l'avait senti lui aussi. Ça n'était pas son imagination alors. Plus vraisemblablement une forme de Shining. John attendit, et quand il comprit qu'Eddie n'en dirait pas plus, se tourna vers Roland.
« Il fait souvent ce genre de coup, votre copain ?»«
Pas souvent, non, Sai. Monsieur, je veux dire. Monsieur Cullum, je vous remercie de nous avoir aidés quand nous avions besoin d'aide. Je vous dis grand merci, beaucoup, beaucoup. Il serait monstrueusement impudent de notre part de demander plus, mais... »«
Mais c'est ce que vous allez faire. Pour sûr, je me disais bien. »
John procéda à une minuscule correction de trajectoire vers le petit hangar, avec sa bouche grande ouverte. Roland estima qu'ils y seraient dans les 5 minutes. C'était parfait pour lui. Il ne voyait aucune objection à cette petite excursion en bateau à moteur, même s'il n'avançait pas bien vite, avec 3 hommes à son bord. Mais les temps de Key Wadin étaient bien trop exposés à son goût. Si Jack Andolini, ou son successeur, s'il devait être remplacé, cuisinait suffisamment les badauds sur la rive, il finirait par en trouver 1 ou 2 pour se rappeler la petite yole avec 3 hommes à son bord. Et le hangar avec ses petites finitions vertes. Le hangar à beuteux de John Cullum, si ça vous sied, diraient les témoins. Mieux vaudrait alors qu'il soit plus avant sur le sentier du rayon, et John Cullum en lieu sûr. Par « sûr », Roland entendait dans ce cas précis à 3 regards au moins vers la ligne d'horizon, ou à 100 roues. Il ne doutait pas que Cullum, un parfait inconnu pour eux, leur avait sauvé la vie en débarquant au bon endroit au bon moment. La dernière chose au monde qu'il souhaitait, c'était qu'il le paie de la sienne.
« Eh bien, je ferai ce que je peux pour vous, c'est déjà décidé. Mais il faut d'abord que je vous demande quelque chose, tant que je peux. »
Eddie et Roland échangèrent un regard furtif. Roland le mit en garde. « Nous répondrons si nous le pouvons. Ce qui veut dire, John Dist Stoneham, si nous jugeons que la réponse sera inoffensive pour vous. » John acquiesça, et il parut se ressaisir.
« Je sais bien que vous n'êtes pas des revenants, parce qu'on vous a tous vus dans la boutique, et que je viens de vous toucher pour vous serrer la main. Je vois bien vos ombres aussi. »
Du doigt, il les désigna à côté du bateau.
« Il n'y a pas plus réel. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes des entrants ?»«
Des entrants ?»
répéta Eddie. Il se tourna vers Roland, mais constata que ce dernier était totalement perdu. Eddie regarda donc de nouveau John Cullum, assis à la poupe de son bateau, le barrant en direction du hangar.
« Désolé, mais je... Il y en a plein dans le coin depuis quelques années. À Waterford, Stoneham, East Stoneham, Lovell, Sweden, même jusqu'à Bridgeton et Denmark. »
Ce dernier nom de ville sonna plutôt comme « Denmark ».
il vit qu'il n'avait pas l'air plus au courant.
« Les entrants sont des gens qui apparaissent comme ça, » ajouta-t-il. « Parfois, ils portent des costumes démodés, comme s'ils venaient de... autrefois, on pourrait dire. Il y en avait un nu comme un ver, qui est apparu en plein milieu de la route 5. Junior Angstrom l'a vu, en novembre dernier, c'était. Parfois, il parle des langues bizarres. Et il y en a un qui a déboulé chez Don Russert à Waterford. Il était assis là, dans la cuisine. » Donnie est un ancien prof d'histoire à la retraite. Il enseignait au Vanderbilt College et il a enregistré ce type. Le type a baragouiné un petit moment et puis il est allé dans la buanderie. Donnie s'est dit qu'il avait dû prendre ça pour les toilettes et il a voulu le prévenir, mais le type était déjà reparti. Il n'y avait pas de porte. Pourtant, il était déjà bien reparti. Denis a fait écouter la cassette à tout le monde, ou presque, au département de linguistique de Vandaille. Department. Et aucun d'eux a reconnu ce que c'était. Il y en a un qui a dit que c'était peut-être une langue complètement inventée, comme l'espéranto. Vous captez l'espéranto, les gars?
Roland fit non de la tête. Eddie tenta avec précaution.
« J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas exactement ce que... »«
Et parfois, » poursuivit John en baissant la voix, tandis qu'il pénétrait dans l'ombre du hangar, « parfois ils sont blessés, ou défigurés, crânés. »
Roland fit un tel bond que le bateau tangua. Pendant une seconde, il menaça réellement de verser.
« Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ?»«
Répétez, John, parce que je vous entendrai très bien. » John sembla penser que c'était purement une question de compréhension, car il s'employa à prononcer le terme plus précisément.
« Cramés, comme des types qui auraient connu une guerre nucléaire ou des retombées radioactives, quelque chose comme ça. »«
Des lents mutants, » en déduisit Roland. « Je pense qu'il parle de lents mutants, ici, dans cette ville. »
Eddie acquiesça, repensant aux grilles et aux ados de Ludd, et aussi à la ruche tordue et à ses monstrueux pensionnaires rampant par-dessus. John coupa le petit moteur Evinrude, mais pendant un moment, aucun des trois ne bougea. Ils restèrent à écouter l'eau clapoter contre les flancs d'aluminium de l'embarcation.
« Des lents mutants !»
répéta le vieil homme, avec l'air lui aussi de goûter de nouveaux mots.
Pour sûr, je suppose que ça leur va aussi bien qu'autre chose. Mais il n'y a pas que. Il y a eu des animaux aussi, et des sortes d'oiseaux que personne n'avait jamais vus dans le coin. Mais c'est surtout les entrants qui inquiètent les gens, qui les font parler entre eux. Denis Russert a appelé un type qu'il connaissait à l'université Duke, et ce type a demandé à quelqu'un de leur département des études parapsychologiques. «
Incroyable qu'ils aient un service pareil dans une vraie université, mais apparemment c'est du sérieux. »
Et aux études parapsychologiques, la dame leur a dit que c'était comme ça qu'on les appelait, des entrants. Et ensuite, quand ils disparaissent à nouveau, ce qu'ils finissent toujours par faire, sauf un type là-bas à East Conway Village, lui il est mort. Alors on les appelle des sortants.
La dame a dit que les scientifiques qui étudient ces phénomènes, j'imagine qu'on peut dire des scientifiques, même si j'en connais beaucoup qui y trouveraient à redire, ils pensent que ces entrants sont des extraterrestres, qu'ils viennent d'autres planètes, que des vaisseaux les déposent puis viennent les rechercher. Mais la plupart pensent qu'ils voyagent dans le temps, ou qu'ils viennent de terres différentes, dans l'alignement de la nôtre.
Depuis combien de temps ça dure ?
Demanda Eddie.
Depuis combien de temps ces entrants apparaissent-ils ?
Oh, 2 ou 3 ans. Et on peut pas dire que ça s'arrange. J'en ai vu 2 moi-même, et une fois une femme chauve avec un œil tout sanguinolent au milieu du front. Mais ils étaient loin à chaque fois. Et vous autres, vous êtes tout prêts.
John se pencha vers eux en pliant ses genoux cagneux, les yeux, qu'il avait aussi bleus que ceux de Roland, tout brillants. L'eau clapotait mollement contre le bateau. Eddie ressentit une forte envie de serrer de nouveau la main de John Cullum pour voir s'il se passerait autre chose. Il se remémora des bribes d'une autre chanson de Dylan.
Visions of Susanna. Ce qu'Eddie voulait, ce n'était pas une vision de Susanna, mais pour le nom au moins, ça n'était pas loin.
« Pour sûr, disait John, vous autres, vous êtes tout près et bien proches. Maintenant, je vais vous aider à retrouver votre chemin, si je peux, parce que je sens pas la moindre onde mauvaise autour d'aucun de vous. Même si je vais vous dire tout net que j'avais jamais vu une fusillade pareille. Mais je veux savoir, vous êtes des entrants, oui ou non ?»
Une fois de plus, Roland et Eddie échangèrent un regard, et ce fut Roland qui répondit.
« Oui, je suppose qu'on peut dire ça. »«
Vain Dieu !» murmura John.
Dans son effroi, même son visage, sillonné de rides, rappelait celui d'un enfant.
« Des entrants. Et d'où est-ce que vous venez, vous pouvez me le dire ?»
Il regarda Eddie, éclata de rire comme le font ceux qui trouvent qu'on leur en a raconté une bien bonne, puis ajouta
« Pas de Brooklyn ?»«
Mais je suis vraiment de Brooklyn !»
affirma Eddie. La seule chose, c'est que ce n'était pas le Brooklyn de ce monde-ci, et il le savait à présent. Dans le monde d'où il venait, un livre pour enfants intitulé « Charlie le Chouchou » avait été écrit par une femme du nom de Beryl Evans. Dans celui-ci, elle s'appelait Claudia et Inès Bachman. Beryl Evans, ça faisait vrai, alors que Claudia et Inès Bachman faisaient aussi faux qu'un billet de $3. Pourtant, Eddie en venait de plus en plus à croire que Bachman était la clé. Et pourquoi ça ? Parce que ça faisait partie de ce monde.
Je suis de Brooklyn, c'est vrai. Pas le même, c'est tout.
John Cullum les contemplait toujours avec cette expression d'enfant effaré.
Et ces autres types, ceux qui vous attendaient, est-ce qu'ils sont...
Non, répondit Roland. Pas eux. On n'a plus le temps, John, plus le temps pour l'instant.
Il se mit debout avec précaution, s'accrocha à une poutre au-dessus de lui et sortit du bateau avec une petite grimace de douleur. John le suivit et Eddie ferma la marche. Les deux hommes durent l'aider. Les lancements réguliers dans son mollet droit s'étaient un peu calmés, mais toute la jambe était devenue raide et insensible, difficile à maîtriser.
« Allons chez vous, » suggéra Roland. « Il y a un homme que nous devons trouver. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être nous y aider. »«
Il pourrait bien nous aider à tout un tas de choses, »
pensa Eddie en les suivant dans la lumière du soleil, les dents serrées, boitant de sa patte folle. À cet instant précis, Eddie se dit qu'il aurait tué un saint à main nue pour une douzaine de cachets d'aspirine. Soliste. Comme à Lapin au levain Belle Michette, ils vont au paradis ou en enfer. Quand les armes ont tiré et que le feu brûle l'air, il faudra bien au four les mettre. Cœur. Comme à la 6-7, du sel pour les Michettes. Réchauffez-les, assommez-les, pour qu'au four roussissent les Michettes.